Donc, ce matin, on va faire la première partie, partie 1, du septième commandement, qui va être divisé en deux parties parce qu'il y avait juste tout simplement trop de matériel que je voulais vous partager. Donc, vous savez, la perversion du cœur de l'homme n'est plus un secret, ne devrait pas l'être, du moins. Dans notre société surtout, elle est, je dirais, célébrée. Elle est étalée à grande échelle. On peut voir des signes de perversion dans la publicité, dans les choses qu'on écoute à la télévision, dans des spectacles, jusque dans nos écoles et nos institutions gouvernementales. La perversion est partout, elle nous environne, partout où l'homme est, en fait. Vous savez, c'est vrai qu'à certaines époques, la perversion était tellement sans limite que probablement qu'aujourd'hui aurait l'air de la petite bière à côté de Sodome et Gomorre qui disait qu'il n'y avait même pas un habitant qui était juste. Il y en a trouvé un, mais c'est tout. Vous imaginez, c'était pas une petite ville, là. Puis la perversion était telle qu'il n'y avait pratiquement pas d'habitants juste. Donc, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Je dirais néanmoins qu'avec l'invention de la technologie de nos jours, moderne, l'accessibilité au vice est plus grand que jamais auparavant. Donc, la sexualité est rapidement devenue, je dirais, une des plus grandes sources, sinon la plus grande source de corruption de notre société, le plus grand péché de notre âge. J'irais même jusqu'à dire que probablement avant l'amour de l'argent, qui est probablement un des deux vices de notre société très, très flagrant. Vous savez d'ailleurs, une génération complète avant moi, avant peut-être votre génération, peut-être avant, a été bâtie sur l'idée de drug, sex and rock and roll, comme on dit en anglais. C'est la pensée américaine des années 70-80. Vous savez, c'est un dicton qu'on entend souvent parmi les gens, puis le peuple d'Occident a appliqué ce dicton à la lettre, malheureusement. Pour réaliser une sorte de libéralisation ou liberté de des racines chrétiennes puritaines qui existaient en Amérique du Nord jusqu'à ce moment-là dans l'histoire. Je ne crois pas avoir à vous peindre un plus grand portrait ce matin pour vous dire que le septième commandement est grandement en besoin d'être enseigné de nos jours. Même parmi les églises, le nombre de familles brisées, de divorce, d'adultère, de déviance sexuelle présente au sein de nous est parfois troublant. Le nombre de pasteurs épinglés en délit sexuel à chaque année est aussi troublant. Et si vous suivez un peu les nouvelles, les médias sociaux, il n'en manque pas. À chaque année, des très connus tombent dans ces péchés. Bien sûr, on n'est pas parfait. Aucun de nous peut dire être à l'abri du péché, peu importe ce qu'est le péché. Mais ce matin, on va considérer comment le septième commandement peut être respecté, comment il peut être vécu et appliqué dans nos vies. En tout cas, une portion. Parce que ce commandement est à la base du mariage, est à la base de la famille, et donc, par le fait même, du bien-être de notre société. Et c'est aussi, je crois, un aspect qui devrait nous démarquer du monde aujourd'hui. Allons dans la prière avant de continuer. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes ce matin, le septième commandement. Nous te prions Seigneur que tu puisses ouvrir nos entendements spirituels pour comprendre et vivre ta parole Seigneur de façon conséquente et intègre Seigneur dans nos vies. Amen. Donc, le septième commandement qui est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Puis comme vous voyez peut-être dans mon plan, on parle presque juste du mariage aujourd'hui. Mais, vous allez comprendre. On va commencer par une définition de l'adultère. Le Larousse définit l'adultère comme une violation du devoir de fidélité entre époux. Assez straightforward, assez direct. Donc, l'infidélité conjugale de la Bible est écrite comme un crime destructeur. C'est décrit comme un crime destructeur du bonheur et personnel et familial et national, surtout dans le contexte d'Israël. et ça prouve la dépravation du cœur de l'homme. Sous la loi, l'adultère était souvent presque tout le temps puni de mort s'il y avait assez de témoins, et il était souvent puni par mort de lapidation, ce qui était pas super le fun, j'imagine. Lévitique 20, versets 10 à 21, on ne lira pas tout ce passage, on peut juste en lire quelques versets. Lévitique 20, 10 à 21. On va juste lire le verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Et puis là, si vous lisez jusqu'au verset 21, vous allez voir toute une liste de choses qui sont interdites. Pas seulement de l'adultère, il y a d'autres, toutes sortes de péchés sexuels qui étaient interdits et quelle façon qui étaient punis, qui étaient souvent la mort. Donc, l'optique de la loi est juste et sévère en même temps. On doit reconnaître que c'est très sévère. Dans la loi civile d'Israël, le but était de garder le peuple, les couples en premier, et le peuple saint devant le Seigneur. Donc, ça devait être sévère. Le septième commandement contre l'adultère peut être défini, selon moi, en deux parties, c'est-à-dire implicitement et explicitement. La première partie implicite de l'adultère, celle qu'on va voir, qu'on va étudier aujourd'hui, elle sous-entend le commandement de l'institution du mariage. Donc, pour y avoir à la base adultère, il doit y avoir mariage. Sans mariage, pas d'adultère, c'est aussi simple que ça. Donc, par définition, l'adultère inclut le mariage. Donc, c'est pour ça que j'ai jugé favorable de mieux comprendre ce qu'est le mariage avant de rentrer dans tout l'aspect qui est explicite, c'est-à-dire qui condamne le péché sexuel en soi. Donc, spécifiquement l'adultère, mais comme on va le voir la semaine prochaine, c'est pas exclusivement l'adultère. C'est plus large que ça, comme la plupart des commandements, d'ailleurs, ils ratifient tout le temps un petit peu plus large que ce qu'on croit à première lecture. Donc, tout l'aspect d'immoralité sexuelle de l'adultère sera le sujet de ma prochaine prédication dimanche prochain. Pour ce matin, on va se concentrer sur l'aspect implicite du commandement, c'est-à-dire l'aspect du mariage. Donc, juste pour vous donner une vision plus large de l'adultère dans le Nouveau Testament, pour justifier un petit peu ce que je viens de dire, dans le langage grec du Nouveau Testament, ça nous démontre que non seulement l'adultère n'est pas juste un péché sexuel, mais étant la définition du concept d'adultère à plusieurs formes d'immoralité sexuelle. Donc, le mot grec qui est souvent utilisé dans le Nouveau Testament, c'est pornia. Vous pouvez vous imaginer de où on tire ça. Donc, c'est plus souvent utilisé dans le sens de fornication sexuelle. Donc, c'est très large. Pour le bénéfice de notre compréhension globale ce matin, je souhaitais seulement vous donner une définition générale de ce que c'est l'adultère. Mais on doit être conscient que dans le Nouveau Testament, le péché de l'adultère, le péché sexuel ratifie quand même très large. Et non seulement un homme qui trompe sa femme. C'est pas juste ça. Bref, on va revenir certainement sur ces concepts la semaine prochaine. Puis j'aurai la chance de plus les expliquer et les développer, mais ça nous donne un aperçu adéquat ce matin pour le reste de la prédication. J'aimerais, avant de rentrer dans, je dirais, la définition de ce qu'est le mariage biblique, qu'on tourne dans le passage de Jean 8. Dernier évangile, Jean 8. Donc, avant de se lancer dans l'aspect implicite du commandement, il y a un texte que j'aimerais prendre le temps d'examiner avec vous. C'est un texte qui est souvent utilisé pour démontrer une divergence entre la loi et la grâce, qui est utilisé pour minimiser son application dans le Nouveau Testament de la loi. Ce texte parle de la femme adultère, donc je me suis dit je vais faire deux pierres d'un coup. avec un seul passage en vous expliquant la signification du texte. C'est important parce que c'est un passage qui est souvent cité pour l'adultère, tandis que, en tout cas, comme vous allez voir, je pense pas qu'il parle directement d'adultère nécessairement. Je pense pas que c'est ça le but du passage. Puis il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui l'ont utilisé pour minimiser les effets de l'adultère dans le Nouveau Testament, comme si c'était acceptable pour Jésus, puis que c'est pas si grave que ça. Bref, c'est mon café. C'est pas grave. Donc, j'argumenterais que ça ne concerne pas directement l'adultère. Cependant, il est souvent cité et utilisé à tort pour alléger la conscience de ceux qui commettent le péché d'adultère ou pour démontrer que Jésus tolérait ce péché, ce qui n'est pas le cas. Donc, les gens essaient de former une division souvent entre la loi et la grâce de Jésus ou entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais est-ce que c'est vraiment une preuve de telle chose? Donc, pour ces raisons, étant donné qu'on est dans la loi, j'ai cru bon de définir ce texte pour que vous puissiez avoir des arguments la prochaine fois que peut-être quelqu'un vous apportera ce texte. Donc, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta avec la femme qui était là au milieu. Alors, étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle dit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. » Donc, passage intéressant. Je vous dirais que ce passage, au contraire, démontre que Jésus avait une très bonne compréhension de la loi juive. Et aussi une très bonne compréhension du cœur tortueux des pharisiens qui essayaient de le faire tomber. Jésus ne cite pas directement Deutéronome 17, mais en fait, c'est clairement une allusion, ce qui répond aux pharisiens, à Deutéronome 17. En fait, c'est tellement clair pour les pharisiens qu'il fait allusion à ce passage qu'ils sont obligés dans leur conscience de renoncer à ce qu'ils viennent de demander à Jésus. Et je vous l'explique en vous lisant Deutéronome 17, versets 6 et 7. « Celui qui mérite la mort, donc ça comprend l'adultère, sera exécuté sur la déposition de deux ou trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras le mal du milieu de toi. » Donc, Jésus savait très bien que les pharisiens ne lanceraient pas la première pierre en tant que témoin. C'est ce qu'il aurait dû faire. Puisque, probablement qu'on soupçonne que c'était probablement même pas des vrais témoins à cause de la façon que ça se passe. Ils pognent la femme, puis ils veulent juste faire un complot. Donc, peut-être qu'ils avaient entendu parler que c'était un adultère. On le sait pas. On n'a pas les détails. Mais on sait que s'ils n'ont pas jeté la première pierre puis qu'ils n'avaient pas la conscience de le faire, c'est parce que c'était probablement pas des vrais témoins. Et Jésus le savait parce qu'il connaissait leur cœur. Donc, il démontre que leur cœur, que le cœur de la loi, c'est plutôt de purifier le peuple. Puis ceci est fait par la main des témoins, dans Deutéronome 17, et non pas par des motifs égoïstes et prémédités comme les pharisiens tentaient de faire. Dans ce sens, Calvin dit, et je cite, « Ce n'est pas une interdiction absolue et limitée par laquelle le Christ interdit des pécheurs de faire leur devoir de corriger les péchés des autres. mais par ses paroles, il réprouve seulement les hypocrites, qui se louangent eux-mêmes de leurs vices, mais sont d'une sévérité excessive et qui sont eux-mêmes des criminels. » Fin de la citation. Donc, en accord avec Jean Calvin, j'en conclus que ce texte, dans Jean 8, n'est pas carte blanche pour l'adultère dans le Nouveau Testament, ou même une preuve d'une faille entre la loi civile puis l'application de la grâce de Jésus. En fait, l'application de Jésus, de la loi, était parfaite, parce qu'il connaissait la loi. Il savait qu'il n'était pas pour la tuer, parce qu'il n'y avait probablement pas de témoin. On ne sait pas, elle était peut-être coupable. Et à la fin, il lui dit « va et ne pêche plus », mais il l'accuse jamais nécessairement du péché qu'eux l'accusaient. Est-ce qu'elle était vraiment adultère? On ne le sait même pas. Parce que le but du texte, c'était de nous démontrer que le cœur des pharisiens était tortueux, et ce qu'ils voulaient, c'était même pas le bien de cette femme-là. C'était même pas le bien du peuple. Ce qu'ils voulaient, c'était tendre un piège à Jésus. C'est un avertissement que notre cœur doit être premièrement tourné vers le bien des autres, et que la sévérité qu'on doit avoir face au péché, parce qu'il y en a une sévérité face au péché, elle doit venir de la loi, elle doit venir de la parole de Dieu. Elle doit pas venir de notre désir charnel de voir les autres punis. C'est aussi un rappel que les hypocrites non plus n'auront pas leur place auprès de Dieu. Donc, pour résumer, ce texte n'est pas une preuve que Jésus donne une carte blanche à l'adultère ou que celle-ci est moins grave dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. La gravité de la vraie adultère est la même. C'est plutôt une démonstration de la connaissance de Jésus par rapport à la loi juive et l'intention juste derrière la sévérité de la loi. Donc, Jésus interprète bien la loi, lui, contrairement aux pharisiens qui voulaient juste punir parce qu'ils ne comprenaient pas le vrai sens de la loi. La loi est sévère parce que le péché ruine la réputation de Dieu. C'est la raison que le péché est sévère. Elle n'est pas sévère parce que c'est convenable pour nous de juger les gens pour se sentir plus moralement adéquat et juste devant Dieu. Si c'est le cas, nous n'avons aucun droit, comme les pharisiens, de réclamer la pénalité de la loi de Dieu. Donc, j'espère que vous serez mieux équipés la prochaine fois, que quelqu'un vous parle peut-être de ce texte, en essayant de faire de créer une crevasse entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce de Jésus. Jésus a autant de grâce que la loi de l'Ancien Testament démontait de grâce. Sinon, la loi ne viendrait pas de Dieu. Puis, ce qu'on ferait ici ce matin serait un peu inutile. Donc, quand même important à comprendre. Donc maintenant, on va entrer dans le cœur du commandement, je dirais, la portion implicite du commandement, c'est-à-dire le mariage. Comme je l'ai dit, plutôt, pas de mariage, pas d'adultère. C'est quand même assez simple comme principe. Donc, il faut premièrement, comme j'ai 4 points, on va définir le mariage biblique, les objectifs du mariage, le rôle dans le mariage et ce que le mariage n'est pas, pour conclure. Puis l'autre, la 5e section, va être la semaine prochaine. Donc, clairement, il y a un sous-entendu du concept du mariage dans l'idée de la fidélité, puis des vœux que se donne un couple quand il se marie devant Dieu. Donc, la définition de l'adultère que j'ai donnée tantôt au début, en soi, peut nous aider à comprendre cela. Ça dit une violation du devoir de fidélité entre époux. Le devoir de fidélité, c'est en partant une bonne base de définition, je dirais, pour le mariage. C'est un bon point de départ. Donc, je prendrai l'opportunité ce matin de bien étudier avec vous qu'est-ce que le mariage selon la Bible et qu'est-ce que ça implique par rapport au 7e commandement. Pour ce faire, on va étudier ces 4 points que j'ai listés. Premièrement, sa définition, son objectif, les rôles, et finalement, ce que le mariage n'est pas. Donc, dans la définition, si j'avais à formuler une définition générale du mariage, comme vue par le monde, monsieur, madame, tout le monde, je dirais que le mariage, pour les gens en général, est probablement une entente entre 2 personnes pour s'unir puis être fidèles l'un à l'autre. Quand les gens se marient dans le monde, c'est plus ou moins ce qu'ils ont en tête. Cette définition est très large. je crois que la majorité des gens, croyants ou non, seraient probablement d'accord avec les principes en arrière de cette définition. Cependant, si j'avais à formuler une définition biblique du mariage, ce serait plutôt une alliance entre un homme et une femme, formant un seul corps, fidèle à l'un et l'autre, qui glorifie Christ par son symbolisme spirituel et son témoignage pour tout homme. Un peu long comme définition, là. Je vous la donnerai si vous la voulez, mais une alliance entre un homme et une femme formant un seul corps, fidèle à l'un l'autre, qui glorifie Christ par son symbolisme spirituel et son témoignage pour tout homme. Donc, déjà en partant, il y a une grande différence entre la perception, entre les deux perceptions des définitions qu'on véhicule dans le monde. Celle des croyants, celle des inconvertis de monsieur, madame, tout le monde. Le mariage est, on dit souvent qu'il est la plus ancienne forme d'alliance entre hommes. Dès la Genèse, Dieu crée la femme pour être la chair d'Adam. C'est pourquoi on fait souvent référence au mariage comme l'institution la plus vieille du monde. Et ça l'est, je crois. On peut lire dans Genèse, d'ailleurs, Genèse 2, premier livre de votre Bible. Genèse 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. » Remarquez bien que le mot « mariage » ou « alliance » n'est pas explicitement dit dans le texte. C'est pas marqué. Mais on comprend que le langage de la Bible est clairement un langage alliantiel ou contractuel ou marital. On comprend que c'est vraiment un mariage qui vient de se passer là. Le premier, d'ailleurs. Probablement le plus sublime avec Dieu comme prêtre. Incroyable. Donc, ce concept d'une seule chair est répété souvent aussi dans les évangiles du Nouveau Testament. C'est quelque chose que les apôtres vont souvent ramener. Dans Matthieu 19, 4 à 6, on lit, « Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Donc, clairement, une référence de la part de Matthieu à la Genèse. Dans Romains 7, verset 2, on trouve un aspect peut-être un peu plus légal du mariage, du lien qui unit deux personnes. Ça dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. » Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui est liée à son mari. Donc, l'aspect légal qui lie un homme et une femme ensemble dans le mariage. Donc, oui, il y a un aspect symbolique, il y a l'aspect d'une seule chair, il y a l'aspect légal de la loi. Et plus loin, on voit que Paul, dans Éphésiens 5, nous démontre le rôle marital en employant le parallèle entre Christ et son Église. Donc, le mariage est définitivement une alliance ou une union entre une femme et un homme qui sont une seule chair liée par la loi. Si on avait à définir une alliance par définition, c'est comme un contrat ou un pacte. C'est quelque chose qui lie deux personnes ensemble. Les deux parties s'engagent selon les termes du contrat, selon les termes de l'alliance. Ils s'engagent à la respecter, sinon il y a des conséquences. Du moins, c'est comme ça que ça marche un contrat la plupart du temps. Si on le brise, il y a des pénalités. Je crois que c'est spécialement important de définir le mariage à notre époque. Même dans les églises modernes, la définition du mariage biblique est, je dirais, sous attaque de la pensée libérale surtout, qui est influencée par ce monde, par comment le monde voit le mariage. Et plus tard, dans la quatrième section, dans le quatrième point, on va discuter de ces différentes attaques. Alors, je ne rentrerai pas trop en détail présentement, mais il faut être en accord, premièrement, avec la définition de que Dieu donne dans la Bible du mariage, avant d'aller plus loin. Si on n'est pas d'accord avec cette définition-là, je sais pas comment plus vous convaincre. Peut-être que vous croyez pas la Bible. Non, je pense pas que c'est votre problème ce matin. Le mariage est ce que la Bible dit qu'il est. Ce que Dieu a décidé qu'il soit. Donc, tout ce qui sort de ce cadre bien défini n'est donc pas par définition un mariage. J'espère qu'on peut s'entendre sur ça. Ce qui nous apporte à notre deuxième point, c'est-à-dire les objectifs du mariage. Et il y a comme trois sous-points dans cette portion-là. Le premier étant que le premier objectif du mariage, et je l'ai mis large parce que je crois que c'est le premier objectif de toutes nos vies de façon générale, mais de glorifier Dieu par l'institution du mariage. Donc, pour bien comprendre le but du mariage, il faut retourner dans Genèse même 1, où Dieu donne à l'homme ses premières tâches. Dans Genèse 1, versets 27 et 28, je vous le lis. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, on voit ici la première appel, le premier travail de l'homme. Qu'est-ce qu'il devait faire? Pour glorifier Dieu, l'homme et la femme, ça spécifie, avaient tous deux le même mandat, avaient la tâche de se multiplier sur la terre et d'être, de façon globale, les administrateurs de la terre que Dieu leur avait donnée, de gérer ça. Évidemment, aujourd'hui, on a laissé la job à nos gouvernements, on voit ce que ça fait. On aurait peut-être été mieux de garder la job, mais faire sa part. Remarquez que, bien que les rôles du mariage, puis on va le voir un petit peu plus tard, sont différents, le but ultime du mariage et de tout couple est centralement le même appel initial de la Genèse. C'est-à-dire de se multiplier et de gérer la terre. Gérer sa famille, gérer ses biens, etc. Ce but est rempli de plusieurs façons, mais j'en ai ressorti trois. La reproduction humaine, l'établissement d'une famille et le modèle vivant de la réalité céleste entre l'Église et Dieu. Donc, en remplissant ces fonctions qui ne sont pas exhaustives, c'est pas les trois seules fonctions du mariage, le mariage peut rendre gloire à Dieu. Et ultimement, la gloire de Dieu est notre objectif sur terre. De façon très générale, la gloire de Dieu devrait être notre objectif sur terre. Donc, le premier point étant la multiplication, la reproduction. J'ai essayé de voir un beau mot pour ça, c'est fécondation. La multiplication était probablement le plus beau mot, mais bon. Aujourd'hui, un des principes bibliques qui est, je dirais, lourdement sous attaque, c'est exactement celui-ci. Peut-être qu'on s'attendrait pas à ça, mais dans les philosophies du monde, la multiplication des hommes est de plus en plus vue comme un problème. On a juste à penser aux fanatiques qui essaient de contrôler les populations du monde par différents moyens comme tuer des enfants quand il y en a trop. La Chine est un excellent modèle pour ça. Ils ont arrêté récemment, là, je crois, leur loi, leur politique, mais ça change rien. Les gens le font encore parce que c'est un sous-entendu. Ça fait 50 ans, 60 ans, 100 ans qu'on leur dit qu'il y a trop de gens. Mais, en tout cas. Donc, on a tous cette espèce de philosophie de contrôle de population mondiale. En passant jusqu'au féminisme extrême qui a développé l'idée de la femme de carrière indépendante qui n'a pas besoin de l'homme puis que elle peut tout faire tout seul dans sa vie, puis l'homme, c'est du rebut. Donc, il y a une panoplie de philosophies entre ces deux-là. J'ai pris comme deux extrêmes, mais il y a une panoplie de philosophies entre ces deux choses-là qui attaquent l'idée que notre rôle soit de se multiplier et de remplir la terre, littéralement, là. Ouais, en plus, la science fait qu'on n'en a plus besoin de l'homme pour avoir des enfants, donc encore plus troublant. Mais les universités poussent l'idée que la Terre est déjà trop remplie, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Et ils justifient des politiques comme en Chine, où est-ce qu'on tue des enfants, ou des mesures très drastiques pour limiter les enfants qui peuvent être mis au monde par les couples de cette façon-là. Je sais pas si vous saviez présentement, un petit fait intéressant, je suis pas fanatique des statistiques, mais celle-là, ça me donne une bonne. En Europe, aux États-Unis, au Canada, les pays développés présentement, le taux de birth rate, le taux de naissance, tourne autour de 1,55 par femme étant en âge d'avoir des enfants. Donc, 1,55 enfants autour, puis je pense qu'au Canada et aux États-Unis, ça c'est encore plus bas, parce que ça c'est le taux en Europe. Si on compare ça au taux de remplacement global, qui est de 2,33 enfants par femme. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que le taux auquel une génération a besoin de se multiplier pour avoir une prochaine génération de façon égale, là, juste pour se soutenir, c'est 2,33 enfants par couple. Présentement, on en fait 1,55 et en bas. Ça dégringole à chaque année. Donc, pendant que les gens nous disent qu'il y a une surpopulation dans le monde, que ça n'a pas d'allure, qu'on dépense trop de ressources, il y a de moins en moins de gens qui vont vivre sur Terre, et c'est prouvé, là, c'est un problème. Les gens ne se multiplient pas assez, et un jour, il va peut-être arriver un point où est-ce qu'il n'y aura plus de gens, parce qu'on fera plus d'enfants. Mais bon, en tout cas, on peut mêler un paquet de choses à ça, mais l'homosexualité, l'acceptation de toutes sortes de déviances sexuelles, fait qu'il n'y a plus d'enfants, qu'il y a moins en moins d'enfants, puis qu'il va probablement en avoir de moins en moins. Et j'espère que les chrétiens vont continuer en enfer. Je vais vous encourager ce matin. Bon, OK, pour une portion de vous, c'est peut-être fini, là. Je vais m'encourager de bord. J'avais trop tard, demandez à Abraham. Mais ça veut dire que d'ici quelques décennies, les gens... les gens auront tellement peu d'enfants que les générations ne seront plus capables de se remplacer. Purement mathématique. Donc, quand vous entendez ce genre de surpopulation-là, dites-vous que c'est une façon complexe pour les gens pseudo-éduqués d'essayer de contrôler les populations mondiales, d'essayer de contrôler l'économie. Je ne veux pas sonner trop fanatique, là, un matin, mais c'est vraiment ça que c'est. C'est une espèce de complot où est-ce que les gens des hautes sphères de la société contrôlent un peu ce qui se passe dans le monde. C'est comme ça que ça marche depuis probablement l'ère de Jésus et même avant. Et je m'écarte un peu là. Donc, ne se laissons pas berner par ces théories de surpopulation et toutes ces autres choses. Ce sont juste des moyens de pouvoir influencer les gens vers ce qu'ils désirent ultimement, vers les valeurs du monde, en fait. Parce que ces choses-là sont en accord avec les valeurs du monde. Je pense à moi, moi je suis important, c'est moi le centre du monde. Ça, c'est la valeur principale du monde. Donc, il y a un grand besoin aujourd'hui de redécouvrir le but initial de l'homme, c'est-à-dire de se multiplier et d'être fécond. Puisque le monde nous dit le contraire. Dans beaucoup de milieux occidentaux, avoir beaucoup d'enfants est presque vu comme un crime ou une stupidité. C'est là que notre société est rendue. J'en ai deux. Troisième, les gens vont commencer à me dire que j'ai une vraiment grosse famille. Au quatre, ils vont commencer à me demander si je sais c'est quoi de la contraception. Puis au cinquième, ils vont commencer à me dire que je suis peut-être fou. Puis, si vous pensez que j'exagère, là, allez voir des familles qui en ont beaucoup, là. C'est vraiment comme ça que les gens pensent. C'est une folie pour eux d'avoir des enfants. Ben, après tout, ça rentre avec leurs valeurs. Le moi. Plus de lui, moins de moi. Mais vous savez, je dis ça ce matin, Je suis conscient que certains couples ont des empêchements physiques et justifiables de ne pas avoir d'enfants, et c'est correct. Je crois que Dieu le sait aussi. D'ailleurs, c'est lui qui est au contrôle. Je suis presque persuadé que la majorité, d'ailleurs, de ces croyants, souvent, auraient aimé avoir des enfants et qui voient ces choses comme des épreuves dans leur vie. Et dans ce sens, je compatis et je les encourage dans cette épreuve, parce que c'en est une, selon la Bible, parce que c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Donc, cet état d'âme m'inquiète beaucoup moins que le nombre grandissant de couples, je dirais même de jeunes couples chrétiens qui refusent d'avoir des enfants par motif purement mondain et égoïste. En plus d'être un rejet flagrant de ce que Dieu désire pour le couple dans le mariage, c'est une preuve que nos désirs, que nos idées, que nos rêves sont plus importants que ce que Dieu veut, ce que Dieu demande. Donc, je vous invite sur ce à être prudent à ce que l'on enseigne à nos enfants sur le couple et aussi sur la vie en général. Vous savez, faire ce qu'on aime dans la vie, c'est pas aussi important que faire ce que Dieu aime. Et pourtant, c'est un message qui est souvent véhiculé. Donc, il n'y a pas de désir plus noble, plus saint, plus biblique pour moi dans un mariage que de se multiplier pour fonder une famille. Dans Psaume 127, versets 3 à 5, ça dit « Voici les fils des fils », qui est aussi traduit par « des enfants » dans certaines traductions, « sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. » Façon poétique, mais il y a plein d'autres passages qui nous disent que les enfants sont une réelle bénédiction. Et vous savez, l'Église a fortement besoin de renouer avec ce principe. Les enfants qu'on a ici ne sont pas une nuisance à nos chants, à notre adoration, à la parole de Dieu. Ils sont une bénédiction. Premièrement, parce qu'ils vous apprennent la patience. Et deuxièmement, parce que la Bible dit qu'ils sont une bénédiction. Faisons attention de ne pas suivre le monde en poussant nos jeunes femmes à tout abandonner pour leur carrière, à être indépendantes, ou à laisser nos jeunes hommes à être paresseux, à prendre aucune responsabilité. Nous devrions encourager nos jeunes, mariés ou non, à tendre vers des décisions qui honorent Dieu et qui les préparent vers le mariage s'ils ne sont pas déjà mariés, vers la vie maritale. De peur qu'ils soient convaincus que leur carrière, que leurs petites affaires mondaines sont plus importantes que le plan que Dieu avait initialement pour l'homme. Et je dis pas que c'est impossible d'avoir les deux, là. On peut avoir une carrière puis une famille. De mettre les choses en perspective. De mettre les priorités aux bons endroits. Donc, nous devons former une génération prête à vivre à contre-courant. Parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. Qui seront prêts à ne pas se laisser mouler par un monde pervers. Et cela nous apporte au deuxième point, sous-point, l'établissement d'une famille. Donc, il n'y a aucun doute que l'appel à quitter ses parents pour s'attacher à sa femme et devenir une seule chair, dans le Nouveau Testament, est une référence à la multiplication féconde de Genèse. Un des moyens par lesquels on devient une seule chair, c'est par la multiplication dans le mariage. C'est la forme la plus littérale de devenir une seule chair. Évidemment, il y a aussi un aspect spirituel, métaphorique, où les deux personnes dans le mariage s'unissent, deviennent une seule chair. Donc, je nie pas qu'il y a cet aspect-là aussi. Mais je crois que l'aspect littéral est la plus évidente. J'en ai déjà parlé dans ma prédication sur le cinquième commandement. Non, ton père et ta mère, mais je répète ici que la famille est le fondement biblique d'une société. Sans famille, il n'y a aucun peuple, aucune nation qui se développe à long terme. La famille cimente une nation ensemble, un peuple. Israël l'avait bien compris d'ailleurs. Nous voyons dans les Écritures que dès l'union entre un homme qui s'attache à sa femme et qui quitte ses parents, il y a fondation d'une famille. Donc, quand on pense à la famille, parfois on pense rapidement à des enfants. Mais strictement parlant, le couple, l'homme et la femme forment une famille. Donc, le mariage, c'est une famille, c'est le noyau familial. Donc, les enfants ajoutent à la bénédiction du mariage, mais ils ne sont pas nécessaires pour constituer ce qu'on appelle une famille. Donc, je ne vais pas aller nécessairement plus loin ce matin en ce qui concerne la famille. Il suffit de comprendre que la famille est un des objectifs du mariage. Je pense que dans le cinquième commandement, puis peut-être dans le futur, j'en parlerai plus, mais je ne veux pas passer trop de temps là-dessus ce matin. Le troisième sous-point étant que le modèle vivant de la réalité céleste entre l'Église et Dieu. Donc, finalement, dans Éphésiens 5, Paul nous fait un beau portrait du mariage en utilisant le rôle de chacun, en comparant Christ à son Église. Donc, Christ, la tête, est symbolisée par l'homme dans le mariage et la femme par l'Église. Donc, tous deux différents, mais de valeur inestimable. Donc, une des fonctions du mariage est de modéliser, de démontrer, de modéliser cette relation entre Christ et l'Église. De comprendre que Christ aime profondément son Église nous fait comprendre la profondeur du mariage, en fait, et la nécessité de respecter l'alliance du mariage. Les gens du monde, par nos mariages, peuvent être témoins de la gloire de Dieu. Et on leur sert de modèle pour ce que Christ et l'Église sont. C'est ça qu'il veut dire, Paul, quand il compare le rôle de l'homme et de la femme à Christ et l'Église. En ce sens, le mariage sert de témoin, de rappel à tout homme que Christ est vivant et que son Église est son épouse. Bien sûr, c'est pas une réalité que les gens vont facilement voir et vont dire « Hey, votre mariage reflète Christ et son Église ». Non, ça m'arrive pas souvent. Mais les gens qui nous côtoient le plus proche sont capables de voir un reflet de cette gloire, même s'ils peuvent pas dire c'est quoi. Ils sont capables de voir un reflet de cette gloire, de cette relation dans vos vies, du moins j'espère, qui reflète vraiment la gloire que Christ a envers l'Église. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est les objectifs du mariage, qui sont de glorifier Dieu par son institution, par la multiplication humaine, par l'établissement d'une famille, puis par le symbole du modèle qu'on a entre Christ et l'Église. Donc, ça serait, de façon rapide, un survol de ce qui est l'objectif du mariage. Donc là, on rentre dans le point 3, qui est le plus fun, c'est-à-dire les rôles. Les rôles dans la relation maritale. Vous savez, si on prend toujours le même passage d'Éphésiens 5, je vais vous inviter à tourner. On va le regarder un petit peu. Un petit peu beaucoup. Éphésiens 5. C'est vers la fin d'Éphésiens 5. On y voit l'aspect dans Éphésiens 5 de l'importance, je vous dirais, toujours actuelle et controversée des rôles dans le mariage. Mon but n'est pas de faire une étude spécifiquement sur les rôles dans le mariage en soi, donc je vais essayer d'être bref. Je vais juste vous dire que la position biblique dans le mariage est celle du complémentarisme. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les termes, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont égales en valeur, mais avec des rôles différents et avec des capacités différentes dans le mariage. Donc ça, c'est une définition, je dirais, du complémentarisme, qui est en opposition avec l'égalitarisme, qui est comme qui dit que l'homme et la femme sont égaux en valeur et en rôle et en capacité de toutes les façons. Survol très rapide. Évidemment, des centenaires de péchés, de corruption ont donné beaucoup d'arguments, malheureusement, aux contradicteurs de cette position, qu'ils soient féministes ou autres racines de ce monde, qui aiment pas l'aspect traditionnel des rôles bibliques. Malheureusement, l'histoire leur a donné un petit peu d'arguments, beaucoup d'arguments, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Dans Genèse 3:16, on lit, « Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc, l'autorité maritale, qui était initialement douce et, j'imagine, propice au couple, se transforme en une espèce de difficulté, une forme de domination plus près de la servitude, je dirais. Donc, ceci veut dire qu'à cause du péché, l'autorité de l'homme charnel, l'homme qui n'est pas chrétien, qui vit dans sa chair, le pousse à une domination qui est malsaine et non conforme avec le plan initial de Dieu, malheureusement. Remarquez cependant que rien nous dit que l'objectif du mariage dans le couple a changé à cause du péché. Donc le but initial est toujours le même. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour s'y rendre à cause du péché. C'est pourquoi les rôles maritaux sont importants et je crois toujours nécessaires aujourd'hui. Donc l'homme, je vais séparer en trois. L'homme, reprenant l'image de Christ et de son Église, nous voyons que l'homme est comparé à Christ. Et là, j'aimerais dire, non pas parce qu'il est parfait, ce n'est pas le but, mais parce qu'il est le chef du couple. Donc, c'est cette image-là qui est employée. Donc, être le chef signifie d'avoir une position d'autorité, d'avoir des responsabilités de direction. Donc, cette autorité doit être utilisée pour le bien-être et la saine direction de sa famille. La réalité fait que nous sommes imparfaits dans cette tâche et que parfois notre intérêt personnel est plus important que l'amour qu'on a pour notre femme dans le mariage. Et c'est ce qui cause des différends, le péché. Dans le contexte moderne où l'homme rose, l'homme éternellement immature et irresponsable, est soumis à sa femme. Et ça, c'est comme un contexte normal de notre société aujourd'hui. Le retour au rôle biblique est souvent perçu comme quelque chose de drastique. Mais c'est cependant un exemple nécessaire et bénéfique à suivre pour nous. Donc, je m'adresse à vous, hommes, ce matin. Vous savez, pour travailler à votre mariage, vous devez être des leaders. Vous devez diriger vos enfants et votre foyer avec un sens de direction, avec un zèle spirituel qui démontre à votre famille, premièrement, que vous aimez Dieu. Soyez doux, bon et toujours prête à vous sacrifier vous-même, physiquement comme émotionnellement. Soyez fort, mais non pas abusif ou violent. C'est ça le message de l'autorité de Christ. Vous savez, dans le cadre de la célébration du mariage, j'ai souvent entendu, des mariages, des célébrations littérales, là, j'ai souvent entendu des hommes parler de leur disposition à mourir pour leur épouse. C'est correct, là. C'est correct de vouloir mourir pour son épouse. Mais vous savez, mauvaise nouvelle, c'est très facile. Pour moi, c'est la moindre des choses. Je me dis, c'est pas difficile. N'importe quand, je donnerais ma vie pour ma femme ou mes enfants. Vous savez, la vraie difficulté, c'est de vivre pour sa famille. Ça, c'est difficile. De vivre chaque jour comme un modèle, comme un leader, comme un homme droit de Dieu, intègre, qui aime Dieu et qui sert sa famille. Ça, c'est difficile. Dans Éphésiens 5, versets 25 à 28, on dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, notre mission en tant qu'homme est de sanctifier, de guider notre mariage vers Dieu. C'est quand même glorieux comme objectif, non? D'aimer notre femme, c'est de l'apporter plus près de Christ. À cause de nous, à cause de notre relation dans le mariage, de l'apporter plus près de Christ. que notre leadership, notre famille, vienne un jour devant Dieu plus sainte à cause de nous. C'est une grande responsabilité. Une qui peut être effrayante. Mais ne soyez pas des hommes qui prennent la banquette arrière. Introverti ou pas, gêné ou pas, votre appel est de devenir le chef de votre famille. Le Seigneur veut des hommes, des vrais hommes, pas des garçons gênés ou pas des suiveurs. Mais des leaders prêts à prendre leurs responsabilités et spirituelles et physiques au sérieux. Maintenant, pour la femme, mesdames, la femme est comparée à l'Église. Non pas parce qu'elle est pure et sans tache, mais parce qu'elle est soumise au désir et au plan de Dieu. parce qu'elle est le plus grand travail de valeur à Christ. Parce que Christ s'est donné pour elle. Parce que comme l'Église est soumise aux volontés de Christ, la femme est soumise aux volontés de l'homme, qui devrait être soumise à la volonté de Dieu. Vous voyez la chaîne? Dans Éphésiens 5, versets 22 à 24, on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Chère dame, vous savez, être d'accord avec son mari et d'être soumis ne sont pas la même chose. Si vous êtes d'accord, c'est probablement parce que vous êtes d'accord. Si vous êtes soumis, c'est probablement parce que vous n'êtes pas d'accord, mais vous le faites pareil. C'est à ne pas confondre. D'être soumis implique souvent un effort contre nature. Surtout après la chute. J'imagine qu'avant la chute, c'était pas un problème pour Ève d'être soumise. Mais là, à cause de la nature imparfaite de nous, de notre conjoint, la soumission, c'est pas facile. De se soumettre, c'est de mettre l'autorité de quelqu'un au-dessus de la nôtre. Donc, de laisser l'homme avoir autorité sur vous. Ce que j'aurais à vous dire ce matin, c'est soyez douce et soumise avec votre mari. C'est une preuve de votre considération, de votre respect premièrement pour Dieu, mais aussi pour lui. Et sachez que la soumission n'est pas conditionnelle au devoir de l'homme. Il faut effacer ce mensonge souvent véhiculé dans les églises. La soumission n'est pas conditionnelle à la capacité de l'homme de remplir son rôle. Les deux sont totalement distinctes et les deux parties doivent faire leur job. Si leur job, c'est un mot un peu cru là, pour ça, là, mais doivent faire leur rôle. Votre appel est d'être soumis à votre mari, qu'il applique lui-même son rôle ou non. Vous devez l'aider à se rendre là, si ce n'est pas le cas. Vous devez être un support dans son manque de force, dans sa faiblesse, ou dans sa force, si c'est un homme fort. Et je parle spirituellement. Parce que Dieu aime cette attitude de cœur, et que l'homme chrétien devrait aussi reconnaître l'effort et la valeur spirituelle d'une telle femme. Il y a des proverbes et des psaumes qui sont écrits à l'honneur de cette réflexion. De dire qu'une femme douce, sensée, soumise à son mari, est la plus belle chose qui existe sur cette terre. Il y a plein de psaumes, pas particulièrement de psaumes, mais surtout des proverbes, qui parlent de cet aspect-là. C'est une grande valeur. Ne laissez pas le monde vous confondre avec sa pensée indépendantiste, dominante et autoritaire. C'est bon, c'est correct d'être douce, d'être soumise. C'est beau. On a besoin d'effacer le tiroir qui nous dit que c'est faible et que c'est pas... Au contraire, je vais vous dire, une femme qui est capable d'être douce, soumise à son mari dans plusieurs situations parfois difficiles de la vie parce qu'on est tous pécheurs, c'est une grande marque de force. Et troisièmement, et non le moindre, bien sûr, il ne faut pas oublier que Dieu doit être au centre du mariage. Donc oui, j'ai mis Dieu comme étant la troisième personne dans le rôle du mariage, parce qu'il a un rôle. me fait penser un peu à quand on fait les images des chandelles ou des fils qui s'entrecroisent pendant un mariage. C'est un peu ça l'idée qu'on démontre. C'est que Dieu est au centre de notre mariage et que les deux parties du couple doivent être soumises premièrement à Dieu et sa volonté dans leur relation maritale. Donc, je sais que j'ai dit plein de choses controversées, que j'ai lancé des idées comme ça, que vous êtes peut-être pas d'accord, peut-être d'accord, je sais pas. Mais je voulais les dire, je crois qu'ils sont justes, je crois qu'ils sont bibliques, et vous viendrez me voir si vous le pensez pas. J'essaierai de vous convaincre en plus grande... Mais non, mais sans faire de farce, je crois que c'est un sujet nécessaire aujourd'hui à enseigner. Nécessaire parce que on doit, en tant que chrétien, réaliser que c'est bon. C'est bon ce que Dieu nous demande. Et c'est bon d'avoir en tête d'épouser ces rôles puis de les prendre à cœur, autant pour l'homme que pour la femme. Donc, je vais conclure ce matin avec le point numéro 4, qui est lui-même divisé en 5 points. C'est une bonne conclusion quand même, hein? Bien, vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Je pense qu'il n'y a pas tant de temps sur chaque point. Donc, je voulais voir certaines choses que le mariage n'est pas. Le mariage n'est pas simplement l'acte sexuel, premièrement. Donc, bien que l'acte sexuel solidifie et confirme le mariage, il n'est pas en lui seul le moyen d'être marié devant Dieu. Je sais qu'il y a tout comme un débat théologique là-dessus, là, mais l'acte public du mariage devant Dieu, selon moi, consiste en l'acte du mariage biblique. Donc, en conformité avec les autorités du gouvernement local, quand c'est possible, mais de se marier devant un témoin avec un pasteur, whatever, de se marier devant quelqu'un, d'avoir des témoins devant Dieu, ça, c'est l'acte de se marier. Pas seulement l'acte sexuel. En fait, l'acte sexuel sans le mariage, on appelle ça de la fornication dans le Nouveau Testament. C'est ça le vrai nom. C'est de l'immoralité sexuelle. Puis, je voulais le mettre là parce que j'ai vu beaucoup, peut-être que vous vous dites, pourquoi il dit ça? J'ai vu beaucoup de jeunes me dire, c'est pas nécessaire d'avoir une cérémonie, on a fait l'amour, on est mariés. Puis, dans leur tête, ils pensaient qu'ils étaient mariés. Mauvaise réponse. L'acte sexuel seul n'est pas le moyen d'être marié devant Dieu. C'est une consommation finale du mariage. J'aurai la chance de revenir là-dessus. Le mariage n'est pas une relation entre personnes du même sexe. Je l'ai dit. Vous savez, dans notre société qui est sous la pression grandissante d'un lobby très fortement pro-homosexualité, c'est important de rappeler ce qui est vrai du mariage. Que le mariage est seulement entre un homme et une femme. Donc, ils peuvent employer le mot « mariage » légalement si le gouvernement leur donne le droit de le faire. Ça change rien devant Dieu à leur statut. Ils ne sont pas mariés. Ils sont idolâtres, fornicateurs, pervers sexuels, mais ils ne sont pas mariés. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que ce ne sont pas des gens qui sont mariés, mais qui vivent plutôt dans une perversité sexuelle. Et là, j'ai pris pour acquis que vous étiez d'accord avec moi, fait que j'ai pas pris la peine d'aller tout voir les versets qui parlent de ça, mais on voit clairement que l'homosexualité est un péché. Ça dit même que c'est une abomination. Et en tout cas, on va revenir voir ce concept-là la semaine prochaine de toute façon, mais c'est une impureté sexuelle, une immoralité. Puis un homme et un autre homme ne peuvent pas être mariés par définition devant Dieu. Ça n'existe pas. Donc, ils peuvent employer le titre s'ils veulent. Puis c'est ce qu'ils sont... En fait, je vous dirais... Bon, là, je divague, mais la raison pourquoi les homosexuels ont cette chose autant à cœur, c'est parce qu'ils savent que ça affecte d'une certaine façon la façon que la société voit le mariage. Mais il faut rester, en tant que chrétien, fidèle à la définition que j'ai premièrement amenée du mariage, que l'on voit dès la Genèse. Et ne pas se conformer à cette nouvelle définition du mariage. Donc, ils peuvent prétendre être mariés. Si ça les amuse de dire qu'ils sont mariés, tant pis pour eux. devant le Seigneur, ils ne le sont pas. C'est ce que la Bible dit, du moins. Troisième sous-point, ce que le mariage n'est pas, c'est un état supérieur ou inférieur. Et j'ai mis entre parenthèses, c'est l'erreur du catholicisme romain. Donc, le mariage n'est pas un état spirituel supérieur au célibat ou vice-versa. C'est pas un est mieux que l'autre ou un est plus saint que l'autre. En fait, nous devrions suivre le conseil de la Bible et se marier si on n'est pas convaincu d'avoir le don du célibat. Point final. Des fois, on complique ça la vie, là, mais c'est aussi simple que ça. Si on n'est pas certain de ne pas avoir le don de célibat, de pouvoir rester toute sa vie sans être sans cesse dans le péché, dans la tentation, vaut mieux se marier. Le célibat n'est pas un état inférieur ou supérieur. Je sais que là, il y a des passages de Paul qui vous viennent en tête. J'aurais aimé l'expliquer, mais j'ai pas le temps. Ceux qui sont célibataires utilisent leur temps pour servir le Seigneur. Et c'est bon. Et que ceux qui sont mariés utilisent le temps qui leur reste pour servir le Seigneur. C'est un peu ça l'idée de Paul. Mais un état n'est pas plus saint que l'autre. On doit simplement apprendre à vivre dans l'état où Dieu nous place. Point final. Et si on n'est pas convaincu d'avoir la capacité de rester seul toute notre vie, ben c'est probablement qu'il faut qu'on cherche une conjointe. Et c'est correct en passant de chercher une conjointe. Ça se fait. C'est correct. Il faut juste chercher les bonnes choses, les bons critères. Donc, il s'agit simplement de suivre le plan de Dieu. Quatrièmement, le mariage n'est pas un acte du hasard et du coup de foudre, qui est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire. Le mariage, bien que rempli d'émotions, n'est pas strictement le fruit de la passion émotionnelle. Si c'est le cas, souvent, ça ne dure pas longtemps. Ça doit être aussi le fruit de notre sagesse, de notre intelligence, de notre réflexion, de notre choix d'un homme ou d'une femme qui répond aux critères bibliques. Ça doit être tout ça culminé ensemble, pas juste un coup de foudre d'un amour passionnel du moment. Et je rajouterais, enfants, obéissez à vos parents. Honorez votre père et votre mère, surtout dans ce genre de choix-là. Parfois, ils voient des choses que vous ne voyez pas. Ça, c'est pour vous, les enfants. Encore un peu jeune, mais je les prépare d'avance. Dernièrement, le mariage n'est pas une licence à l'impureté sexuelle. Je vais probablement revenir là-dessus dans le prochain message, mais pour l'instant, je voulais juste vous mentionner que même à l'intérieur du mariage, c'est possible d'être pervers sexuellement. Il faut faire attention de ne pas faire de nos mariages une licence pour être dévergondé. Ce n'est pas ça.